Alors, donc le film, comme vous le savez sans doute, il a été, c'est un film de 1939, Monsieur Smith au Sénat, Mr. Smith Goes to Washington. Il a été tourné d'avril à juillet 39. Je vous dis ça parce que c'est une année de cinéma exceptionnelle, l'année 39, que ce soit même en France, pensez à La Règle du jeu de Renoir, mais surtout aux États-Unis, avec Autant en emporte le vent, Stagecoach de John Ford, Seuls les anges ont des ailes, qui est l'un des meilleurs films de Howard Hawks, à mon sens pas si connu que ça aujourd'hui, avec Cary Grant et Jean Arthur, l'actrice de Monsieur Smith. Bref, c'est vraiment une année faste de cinéma. Et ce qui est un peu touchant aussi avec la sortie de Monsieur Smith au Sénat en France, c'est que c'est le dernier film autorisé, anglophone autorisé en France, avant l'interdiction par l'occupant de la diffusion de films anglophones. Et donc, il faudra attendre l'après-guerre pour que tous les films américains réalisés, disons, entre 40 et 45, ressortent presque d'un coup, avec cet effet comme ça, très très fort pour les gens qui, à l'époque, voyaient les films. Mais donc, c'est le dernier autorisé. Je crois que c'est le 15 octobre 42, l'interdiction, le couperet. Donc, il est sorti à l'automne 42 en France. Sur Frank Capra, est-ce que vous connaissez d'autres films de Capra, La vie est belle, quand même, sans doute, qui a été beaucoup montré, notamment pour des histoires de droit. C'est un film de 1948, donc là, de l'après-guerre, mais aussi avec James Stewart, qui est un peu une sorte de somme du cinéma de Capra, mais aussi, d'une certaine façon, un peu une caricature, ou un peu, voilà, qui a forgé peut-être une image un peu trop stéréotypée du cinéma de Capra et de sa conception un peu familiale, familialiste de l'Amérique et des petites villes. Donc, c'est intéressant de voir plutôt son cinéma d'avant-guerre, des années 30. Mais se rappeler, bon, moi j'adore tous les films de Capra, notamment parce qu'on y voit un beau reste de ses débuts de cinéaste quand il était gagman. Il a commencé à mettre en place des gags et puis à vraiment réaliser des films pour Harry Langdon, donc tout ça à la période muette, hein. Il a commencé pendant le muet et c'est important pour ce film-ci parce que ce qu'il en reste, c'est d'abord un sens de la gestuelle, des déplacements, etc. Il y a en fait certains moments, par exemple la scène du chapeau, la scène où il va rendre visite à la jeune femme et à son père, voilà, où il y a des gags qui sont purement visuels, qui ne nécessitent pas de dialogue, et puis surtout parce que commencer en mettant au point des gags, c'est prêter attention au timing, à l'importance du timing quand on fait rire, mais à la limite en général, et c'est quelque chose qui va développer au cours des années 30, mais surtout dans la deuxième période, dans la deuxième moitié des années 30, l'accélération des dialogues, c'est-à-dire dire aux acteurs de dire leur texte plus vite que d'habitude, donc quelque chose qui se dirait en une minute, vous le dites en 45 secondes. Et ça, ça contribue aussi à une forme de vivacité, d'où le fait aussi que le film soit très bavard. Il se trouve que c'est un film centré sur la parole, hein, sur bien sûr le poids de cette parole, mais y a encore plus de dialogues possibles quand on fait travailler les gens plus vite. Alors, je vous recommande de voir, parce que tout ça se trouve quand même assez facilement en DVD pour certains, les films, tous les films du début des années 30, notamment avec l'actrice Barbara Stanwyck, et notamment La femme au miracle ou Forbidden, une vie secrète. C'est vraiment des excellents films. Mais l'autre film que vous avez plus sûrement vu, et d'ailleurs je me demande si on ne l'a pas passé ici, c'est New York Miami. Avec Claudette Colbert et Clark Gable, c'est une comédie romantique, on peut dire, de 1934, qui en fait lance la comédie romantique. Ils se rencontrent dans un car qui sillonne les États-Unis et qui va à New York. C'est vraiment excellent. Et c'est un film qui a traversé le temps et qui a été un succès immense, tellement immense que d'ailleurs Capra a été dépassé d'une certaine façon par ce succès. C'était trop pour lui, mais en tout cas, ça a fait vivre le studio pour lequel il travaillait, c'est-à-dire la Columbia, hein, vous avez vu qui travaille pour le studio Columbia, qui était le plus petit des gros studios, le plus petit des majors, qui n'avait donc pas beaucoup, pas des gros budgets. Mais grâce à Frank Capra, le studio a enchaîné quelques succès après New York, Miami, et ça a permis à Capra une indépendance, c'est-à-dire une liberté, le choix, d'avoir le choix, ce qui, comme vous le savez, à Hollywood n'est pas évident pour les réalisateurs à cette période, avoir le choix de ses scénarios, de ses sujets, de ses collaborateurs, de ses acteurs et de son montage aussi. Là, par exemple, le film fait 2 heures, voilà, c'est délibéré et c'est director's cut, comme on a dit plus tard. Donc, il travaille dans une liberté artistique assez rare à son époque. Il n'y a guère que Chaplin, enfin, bien sûr qu'il y a des exceptions. Hein. Il va continuer, comme je vous disais, après-guerre. Il va s'engager, superviser pas mal de films de propagande américaine pendant les années 40. Et puis, il va continuer avec d'autres films, mais en fait, assez mal, je dirais. L'après-guerre, à part La vie est belle, c'est pas du tout facile pour Capra. Et il va arrêter en 61, et il ne meurt que 30 ans plus tard, en 91. Donc, il cultive ses oliviers en Californie, il écrit ses mémoires, etc. Mais sur le contexte lui-même du film, c'est-à-dire ce moment-là de 1939, même si on est 10 ans après la crise de 1929, c'est-à-dire on est dans le sillage de ce qui s'est appelé la Grande Dépression aux États-Unis, donc le krach boursier qui a entraîné surtout un énorme chômage dans tout le pays, même si on est 10 ans après, clairement le film s'inscrit dans ce sillage-là pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a une espèce de rechute, de récession en 1937. Et puis surtout parce que, vous le savez, l'histoire dont il est question, cette affaire de barrage et de subventions pour construire ce barrage qui sont détournées, les subventions, par Taylor et Payne, en fait, je crois qu'on le comprend assez bien, mais c'est l'argent du New Deal, c'est l'argent de l'État. Donc ce qui s'est passé après la crise de 1929, vous le savez, c'est que Roosevelt a proposé quelque chose d'assez étonnant par rapport à la vie économique et politique américaine et la philosophie, disons, individualiste américaine, à savoir une politique d'État-providence à partir de 1932, et donc des grands travaux pour pouvoir embaucher des chômeurs, etc. Donc il est question dans le film de cette Deficiency Bill, qui est une loi pour lever des fonds supplémentaires pour ces grands travaux, et donc voilà, c'est ça que tente de détourner Taylor et Payne. Et juste pour vous dire que Roosevelt, le gouvernement Roosevelt était tout à fait conscient de ces risques-là de détournement au niveau local. Il savait bien qu'il y aurait des gens, il y aurait des profiteurs, donc il y avait aussi une vigilance à cet égard. Et puis sur la question, on pourrait dire la question économique et sociale, bien sûr c'est un film politique, on va en parler, mais sur cette question de l'état des États-Unis au niveau économique et social, je vous recommande, si vous avez l'occasion, de voir les deux autres films de Frank Capra qui forment avec celui-ci une sorte de trilogie. Le premier, vous l'avez peut-être vu, c'est L'extravagant Mr. Deeds en 1936 avec Gary Cooper, vous voyez. C'est vraiment une comédie très 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 drôle et très belle, avec aussi Jean Arthur. Mais avec Gary Cooper, qui est un type, une sorte de poète un peu rural, musicien, qui tout à coup hérite d'une énorme somme et qui va aller à New York et se faire, enfin, être la proie de plein de vautours, justement, et de profiteurs qui essayent de lui piquer un peu sa fortune et de le prendre pour un idiot, ce qu'il n'est pas. Le deuxième pan, donc, ce serait Monsieur Smith au Sénat en 39, et le troisième, c'est Meet John Doe. John Doe, ça veut dire Monsieur Tout le Monde, l'homme de la rue, en français, qui est un film de 1941, aussi avec Gary Cooper. On a appelé ça la trilogie des messieurs de Capra. Le point commun entre ces différents films, mais il y a ça dans d'autres films de Capra, c'est qu'il y a un méchant, il y a un méchant qui est toujours une sorte de capitaliste assez spéculateur, etc. Là, il se trouve que c'est un mania de la presse, mais on voit bien que son pouvoir s'étend à beaucoup de choses et qu'il a vocation à truster un peu tout. Alors, pour zoomer un peu là plus précisément sur le film, je pense que c'est important de se souvenir de son décor principal, qui est d'ailleurs dans le titre, à savoir le Sénat, à savoir où se passe le film. D'abord parce qu'il n'a pas réussi à obtenir l'autorisation de filmer vraiment à Washington. Du coup, il a tout fait reconstruire. C'est assez incroyable. C'est-à-dire que le Sénat qu'on voit est reconstruit à l'identique. Et c'est un décor tellement... alors, c'est pas tellement qu'il est dispendieux, mais il est tellement minutieux et réaliste qu'il va être réutilisé par Otto Preminger en 62 pour Tempête à Washington avec Henri Fonda. Encore un film absolument à voir. Évidemment que ce Sénat, il est à l'intérieur du dôme le plus connu de l'Amérique, donc le Capitole, et ça fait forcément penser à ce qu'on a vu récemment, c'est-à-dire le 6 janvier 2021, l'assaut du Capitole par les Trumpistes. Alors, je ne vous ai pas amené les images, en fait, il n'y a pas tant de petits films, mais évidemment, symboliquement, ça a été réactivé par ça. On a vu ce haut lieu, disons, de la démocratie américaine attaqué par les partisans de Trump en 21. Donc, je voulais vous montrer le décor lui-même et notamment les pupitres qu'a fait refaire Frank Capra. Mais surtout, je voulais vous montrer un extrait d'un film de 1948 de Frank Capra, puisqu'il n'a pas cessé de réfléchir à la démocratie et à la politique aux États-Unis. Et donc, en 1948, il a fait un film qui s'appelle « L'enjeu ». Ça s'appelle « State of the Union », qui est, vous savez, un discours que prononcent les présidents, l'état de l'union. Mais en fait, c'est un jeu de mots, parce que c'est aussi l'état de l'union entre un couple joué par Spencer Tracy et qui est un politicien qui va participer à l'élection présidentielle américaine, et sa femme, et voilà, qui sont en pleine crise conjugale. Donc il y a un jeu de mots qui n'est pas conservé dans le titre français, qui s'appelle « L'enjeu ». Est-ce que vous le voyez, c'est Capra, là, qui est sur son propre décor? Ça me paraît toujours incroyable qu'on ait reconstruit tout ça, mais bon, cet hémicycle. Et il a même fait donc refaire les pupitres eux-mêmes. Bon, ça paraît anecdotique, mais... Et ça, c'est une image du film de 62 dont je vous ai parlé, Otto Preminger, Tempête à Washington, avec Fonda, exactement dans le même décor. Alors, je vous passe l'extrait de l'enjeu dont je vous ai parlé. Donc là, on est devant la Maison Blanche, puisque le Spencer Tracy, il va se présenter à l'élection présidentielle. Mais je vous passe cet extrait parce que je pense que déjà dans Mr. Smith, la question, c'est comment repeindre les idéaux démocratiques américains, et que justement, ce n'est pas seulement une question de façade, d'apparence, mais comment les remettre à neuf, vraiment à nouveau frais, pour qu'il soit à nouveau en phase avec les principes fondamentaux d'égalité, de liberté. Donc, poser le fait qu'il y a une vocation pédagogique du film lui-même, un film qui est, en tout cas au moins en partie, une fiction sur le fonctionnement des lois aux États-Unis. D'où le fait que dans le film, il y a le Capitole lui-même, donc l'endroit où il y a les chambres... où se font les lois, apparaît. Alors vous vous souvenez, je vous ai fait un petit relevé, mais vous vous souvenez que la première fois, c'est sous forme de gâteau, à la fête organisée par Taylor pour annoncer son investiture. C'est pas un hasard si c'est un faux Capitole, la première apparition, et si c'est associé à... voilà, du sucré et à l'enfance. Et puis ensuite, vous vous souvenez qu'à son arrivée à la gare, c'est la première chose qu'il voit à travers la porte vitrée de la gare. Et quand il prend le taxi le soir avec Saunders, voilà, il est derrière, il est tout illuminé, etc. Et puis, je ne vous ai pas pris la capture, mais à la 49e minute, bien sûr, quand il rédige sa loi, on voit le Capitole à travers la fenêtre du bureau. Pourquoi insister sur ce relevé ? Parce que il me semble que justement, ce que ça montre, c'est pas un film qui lui-même, est obsédé par le Capitole et par ses valeurs. L'important, c'est que le personnage arrive avec des étoiles, et même des étoiles et des stripes et dans les yeux, c'est-à-dire qu'il arrive avec son bagage imaginaire sur ce que c'est que la politique américaine, ce que c'est que la démocratie, et ça se cristallise sur ce monument qu'est le Capitole, d'où le fait que dans le film est associé au personnage de Jeff Smith, évidemment dont le nom est composé de Jefferson, c'est-à-dire le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, mais qui est aussi le rédacteur principal de la Constitution, et de Smith, Dupont, quoi, Monsieur Tout le Monde. Et donc, à mon avis, est associé formellement dans le film, dans toute la première partie du film, à ce personnage, un type de montage particulier qui est hétérogène par rapport au reste de la fiction et à la fiction, au récit de fiction classique du Hollywood de ces années-là, à savoir ce qu'on appelle des séquences en accolade ou des séquences de montage. Alors, vous voyez bien sûr à quoi je fais allusion, hein, c'est le moment où il arrive et on a l'impression le dépliant touristique, enfin, le dépliant de l'étudiant en droit ou en philosophie politique défile dans sa tête. En fait, c'est un montage. Alors, vous avez dans le livret du CNC toutes les références aux monuments eux-mêmes. Hein, je ne vais pas les détailler ici. Ce qui m'intéresse, c'est que ce type de montage, ce procédé de montage, donc avec de la musique qui recouvre cette espèce de feuilletage rapide de plans qui ne comporte pas de dialogue, en fait, il est répété plusieurs fois. D'abord, il est monté par un type qui s'appelle Slavko Vorkapitch, qui a lui-même été cinéaste, mais qui est un slave avec toute une culture de cinéma soviétique. Cinéma soviétique, si vous avez vu L'homme à la caméra, par exemple, de Dziga Vertov, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que le documentaire, notamment le documentaire soviétique, et puis Eisenstein, les films d'Eisenstein, par exemple, utilisent ce type de montage. Donc, un montage qui est plus discursif que vraiment narratif. Cette séquence-là, par exemple, elle a été commandée à ce Slavko Vorkapitch, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que Capra la reprend. Vous vous souvenez, quand Smith, donc encore dans la première partie, fait l'objet de plusieurs unes de journaux, là encore, on a une séquence en accolade. Et puis, quand il fait le coup de poing auprès des journalistes, quand il réagit à toutes ces unes de journaux, là encore, c'est monté de cette façon. Alors, du coup, on se pose la question, c'est-à-dire pourquoi à ce personnage est associé ça ? Je pense d'une part, comme je l'ai dit, parce qu'il arrive avec son imaginaire qui risque toujours de se figer en quelque chose de stéréotypé, justement, en une sorte de catalogue un peu pré-pensé, de préjugé sur ce que c'est que la politique aux États-Unis. Et puis, peut-être aussi, d'autre part, tout simplement, que ces montages qui sont rapides suggèrent que c'est quelqu'un qui est en surchauffe symbolique. On pourrait dire que ça le travaille de manière qui n'est pas vraiment organique, quoi, qui est vraiment une... Il y a le risque que, en fait, comment dire, que lui-même ne vive que dans cet imaginaire stéréotypé, mais je dirais aussi que Capra est très conscient que son film lui-même risque, un film un peu didactique sur la démocratie américaine, ça risque aussi d'être un film proche de la propagande. Vous voyez ce que je veux dire ? À partir du moment où on quitte le régime de fiction et qu'on est dans quelque chose de plus pédagogique, eh ben, on risque de frôler la propagande ou la contre-propagande, si vous voulez, peu importe. Et je trouve intéressant que le film lui-même se pose cette question. De comment faire pour rester dans un récit tout en quand même embrassant quelque chose de sérieux, qui est la question de la démocratie aux États-Unis, de est-ce qu'elle est encore vraiment en vigueur ou est-ce qu'elle est complètement pourrie. Voilà. Évidemment, au même moment quasiment, hein, puisque c'est 1940, Chaplin va répondre aussi à cette question de comment on met des idées dans un film, avec bien sûr Le Dictateur, film que vous avez peut-être vu, vous voyez. Et si vous souvenez du film, c'est un personnage qui ressemble quand même beaucoup à Charlot, en tout cas joué par lui avec sa moustache et tout, avec des scènes comiques qui rappellent d'autres des films de Chaplin. Et puis à la fin, il est pris pour le dictateur, c'est-à-dire Hinkle, c'est-à-dire Hitler, et il fait un discours, au contraire, de liberté et de démocratie à l'américaine, devant la foule des nazis. Donc voilà, Chaplin, il a répondu différemment à cette question de comment on met des idées, tout à coup on décroche du récit et on parle de ce qui secoue l'Amérique à ce moment-là, à savoir la montée du nazisme en Europe. Alors, quand je dis que le film lui-même réfléchit à cette question, en réalité, même le personnage de Jefferson Smith y pense, parce qu'il dit, dans la scène où il parle de son projet de loi à Saunders, il dit « La liberté est trop précieuse pour être conservée dans des livres ». J'aime assez bien cette phrase, et c'est une phrase que, bien sûr, Capra pourrait dire par rapport au documentaire de propagande. Peut-être que voilà, c'est une question trop précieuse pour être limitée à un documentaire de propagande, et qu'il vaut mieux l'inclure à l'intérieur d'une fiction familiale, on pourrait dire, une fiction grand public. Donc cette question de comment les grands principes peuvent rester vivants, il me semble qu'il y répond dans tout le film. Comment ? Par la question de la jeunesse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour réinsuffler un élan vital dans cette génération, quand même, donc la génération de Jeff Smith, qui paraît un peu infantilisée et qui va retourner ce stigmate, disons, qu'elle subit de la génération d'avant pour faire valoir justement sa jeunesse, y compris son endurance physique. Donc, mon point, c'est que c'est un film qui est ouvert sous le signe de l'enfance, avec, bien sûr, la place stratégique, qui est quand même assez surprenante, me semble-t-il, je crois, en tout cas, quand on voit le film pour la première fois, des enfants. Après, on oublie un peu tout ce début, mais le début où les enfants prennent un peu le pouvoir là, chez leur vieux père à table et nomment Jefferson Smith comme prochain sénateur, c'est évidemment stratégique que le film commence comme ça. Ensuite, bien sûr, le fait que Smith est un représentant des enfants en tant que rédacteur en chef de Boy Stuff, donc il est leur voix, disons leur voix écrite, hein, avant que d'être un sénateur. Et puis on découvre que le journal lui-même, il est fait par des enfants. Ça, c'est plus tard, mais on voit vraiment les enfants en train de fabriquer le journal. Bien sûr, le fait que sa seule idée de loi, son idée politique qu'il apporte, c'est un camp pour les jeunes. Le fait qu'arrivant au Sénat, qui est-ce qui lui explique, qui est-ce qui le guide dans le Sénat, c'est un page, c'est un enfant. Arrivant même à la gare, on n'arrête pas de l'appeler bébé, avec ses pigeons qui sont pour écrire à maman, avec le fait qu'il a encore du wet behind the ears, on dit en anglais, mais il a encore du, comment on dit en français, du lait qui lui sort... je sais plus, qui lui sort du nez. Voilà, donc tous ces... Et puis, bien sûr, Saunders qui dit « Mais moi, je ne suis pas une babysitter, je ne suis pas là pour donner le biberon, je ne suis pas là pour le border. » Voilà. Donc, toute cette association de ce personnage à l'enfance, alors qu'il est grand, qu'il est physiquement un homme, même, en fait, quand il s'assoit au pupitre, on a l'impression, voilà, qu'il y a une espèce de corps trop grand à un pupitre d'écolier, quoi. Et puis la scène du chapeau dont je vous parlais, elle va aussi dans ce sens, comme si le chapeau était symboliquement une sorte d'attribut viril ou d'autorité ou de paternité, et qu'il lui tombe des mains, quoi. Il lui glisse tout le temps des mains, etc. Donc voilà, ce qui m'intéresse dans le fait qu'il est associé à l'enfance, c'est que c'est quand même plutôt négatif au début. C'est-à-dire que c'est plutôt un empêchement, c'est plutôt une incapacité à grandir ou être un corps trop grand, en tout cas être vu par les autres comme un enfant. Donc il est proche de cette génération suivante, mais à la fois c'est pas forcément un atout pour lui, évidemment. Puisqu'il peut être exploité, trompé, manipulé, etc. Mais ce qui est aussi intéressant avec le fait qu'il est associé à l'enfance, c'est que l'étymologie du mot enfance est infants, donc qui ne parle pas encore. Et c'est intéressant parce qu'il me semble que enfin, l'arc narratif du film, l'initiation du personnage, en fait, c'est qu'il va apprendre à prendre la parole d'une façon. Donc, non seulement prendre la parole, mais en abuser, enfin, aller très très loin avec l'obstruction parlementaire. Donc, je note d'ailleurs que quand il arrive à la gare avec ses pigeons, quand même, il arrive avec un moyen de communication. Mais c'est un moyen de communication infra-verbal, le pigeon. Et évidemment, le pigeon, en tout cas en français, c'est aussi lui. Mais ensuite, vous vous souvenez, la première parole, disons, qu'il a dans la ville, à Washington en tout cas, qu'est-ce qui résonne ? Bah, c'est le cri d'Indien qu'il a fait et que les journalistes rapportent et photographient, ou le cri d'oiseau ou ses appos, etc. Donc là encore, il est en deçà du langage. Il fait du bruit, mais pas le bon. D'une certaine façon. Et puis surtout, au début, à son arrivée au Sénat, vous vous souvenez, il se met à parler et on lui rappelle qu'il n'a pas encore le droit de parler parce qu'il n'est pas encore officiellement sénateur. Ensuite, la première fois qu'il veut vraiment parler de sa loi, de la création du camp pour jeunes gens, il veut prendre la parole et en fait, il crie, il parle trop fort. Il dit « Monsieur le Président », mais il crie. Et puis ensuite, il est tellement gêné d'avoir crié qu'il parle pas assez fort pendant qu'il développe son propos et sa loi. Et puis, vous vous souvenez du président qui lui dit « Quand vous aurez fini de muer, peut-être que… Voilà. » Donc, il y a tous ces ajustements phoniques, sonores, et presque aussi d'âge, d'une certaine façon. La voix est associée avec le fait qu'il a une trop grande jeunesse. Et surtout, quand il a commencé à parler, le sénateur Payne va lui dire demain, en fait, demain, il ne faut pas qu'il parle. Demain, vous vous taisez. Donc, en fait, c'est pas linéaire, son accession à la parole. On essaye évidemment d'obstruer cette accession à la parole, et c'est pas un hasard s'il est question d'un barrage. Hein. On lui fait barrage d'une certaine façon. D'où le fait que tout le film peut être vu comme un récit initiatique avec des différents adjuvants ou opposants. Mais ça, on pourrait dire ça de plein de récits. Donc l'intérêt, c'est de voir comment c'est fait spécifiquement dans ce film. Et c'est intéressant, là encore, parce que comme c'est un long film, on oublie toujours un peu les débuts, je trouve, avant l'arrivée au Sénat. C'est intéressant de se rappeler que même dans le train, donc avant même d'être à Washington, il y a le début d'une initiation avec la rencontre avec le sénateur Payne. Et que d'emblée, le sénateur se souvient de lui jeune, etc., l'histoire du chapeau, et d'emblée, il a une attitude paternelle. C'est-à-dire, il se présente comme une sorte de substitut du père mort en tant que son ami de jeunesse. Ensuite, il va lui expliquer, bien sûr, les usages de Il va l'accompagner dans son intronisation avec toujours un rapport très tactile avec lui. Hein, vous avez vu, il lui met toujours la main sur l'épaule, etc. Cet acteur qui joue le sénateur Payne, c'est Claude Rains, qui est un acteur. Il joue le méchant dans Les Enchaînés d'Hitchcock. Il joue un nazi, en fait, exilé au Brésil juste après la guerre. Bon, bref. En tout cas, ce qui est intéressant avec ce personnage paternel, mais en fait paternaliste, c'est quand même, je trouve toujours cette idée que la génération précédente, sous couvert d'initiation, coupe l'herbe sous le pied de la génération suivante. Et c'est une fausse transmission, en fait, qui prétend vouloir transmettre, mais en fait, il travaille pour ses propres intérêts. L'erreur, la première erreur de Jefferson Smith, c'est de croire qu'il se place, enfin, de se placer sous la loi du père. Donc, ce père-là, mais en se plaçant sous la loi de ce père de substitution-là, il se place en fait sous la loi du plus gros père, c'est-à-dire celui qui chapeaute et manipule Payne, c'est-à-dire Jim Taylor, enfin l'espèce de fasciste et spéculateur joué par Edward Arnold. Si vous avez vu le film de 38, vous ne l'emporterez pas avec vous, de Capra, déjà avec James Stewart, il joue aussi cette figure de méchant. Donc pour moi, ça explique le fait un peu bizarre que ce jeune homme très gentil, etc., aille quand même frapper les journalistes. C'est-à-dire que cette séquence du coup de poing, elle est un peu surprenante. On pourrait se dire il est trop gentil pour faire ça. Mais en réalité, je me demande, c'est justement un peu inconsciemment, ça nous fait pas sentir le risque qu'il peut y avoir pour lui à se placer sous cette autorité, à devenir lui-même potentiellement, enfin à imiter potentiellement ces deux figures-là. Cette initiation, elle est aussi poursuivie, ou en tout cas elle est en sous-main ou de manière beaucoup plus discrète dans le film, mais finalement importante, poursuivie par un autre groupe entièrement masculin, qui est celui des journalistes. Vous vous souvenez, quand il va à l'espèce de club de la presse, là, et que justement il est très très furieux contre eux, une fois qu'il s'est calmé, ils lui apprennent quelque chose. Ils apparaissent comme une sorte de, surtout Deez, l'amant, l'ami de Sanders, comme une sorte de bouffon shakespearien. C'est-à-dire qu'ils disent « Ok, tu nous frappes, mais en fait, ça ne t'aidera pas à faire advenir la vérité. Et tu sais quoi ? En fait, t'es une potiche. » Ils disent « Tu es ici pour décorer un fauteuil et pour faire oui de la tête comme un santon de Noël. » Je cite. Donc voilà, et je pense que c'est important de ne pas oublier cette étape dans son initiation. Bien sûr, une fois que nous, on comprend les coulisses et qu'on comprend que le sénateur Payne n'est pas véritablement un initiateur, puisqu'il est lui-même un pantin, ce qui est intéressant, et c'est en ça que le film est assez subtil, c'est que Payne, il a la capacité, même une forme d'élégance et d'élégance rhétorique, il a la capacité auprès de ce jeune homme de justifier sa corruption. Et même, je dirais, de la naturaliser. Hein, il dit, c'est comme ça, les choses fonctionnent ainsi, vous pouvez me croire. Il dit ça à 1h18. Donc non seulement il est corrompu, non seulement il laisse, mais il laisse voir sa corruption et il la naturalise. Voilà. Donc bien sûr que là, je parle d'initiation, mais ces initiations-là, c'est des douches froides, c'est des désillusions au bout d'un moment, au milieu du film. Hein. Voilà, ça démystifie justement tout son imaginaire utopique, positif de la démocratie en Amérique. Donc, d'où le fait qu'il y a ce très grand contraste, y compris contraste au sens lumineux, entre donc sa visite du Lincoln Memorial au début, hein, au grand jour, il est presque ébloui, même on voit que c'est légèrement surexposé, en tout cas de jour, avec quelque chose de la blancheur du marbre qui se reflète sur son visage, ce gros plan, etc. Et la deuxième fois, quand il s'apprête à quitter la ville complètement dégoûté et désillusionné, là, c'est de nuit. On voit l'espèce de flic, enfin le gardien, voilà, qu'on n'avait pas vu avant. Il baisse les yeux et il est même en contre-jour, voilà, comme une sorte d'ombre découpée et complètement accablée. Cette espèce de mise en contraste, cet écho des deux séquences, elle est importante parce que en fait, le risque, c'est pas seulement qu'il ne soit pas sénateur et qu'il retourne dans sa campagne, c'est qu'en fait, il désespère de la politique et qu'il désespère de l'humanité, j'allais dire même. Donc ça va très loin. Et si vous avez vu Mr. Deeds avec Gary Cooper, il y a une séquence semblable dans son procès. Je vous en fournis d'ailleurs l'extrait. C'est-à-dire que c'est le contrat social même qui est menacé, quoi. Et il dit, dans ce moment de déflation des mots et des symboles qu'il avait tellement gonflé, il arrivait gonflé de tous ces symboles, il dit « Je pars loin des mots et des monuments ». Voilà, ce genre de dialogue, je trouve ça d'une grande clarté, finalement. Et c'est dit avec un naturel de mélancolie. Voilà, qui me... En réalité, il part aussi loin des noms de famille, j'allais dire. Il part loin de Joseph Payne, qui était mythique dans son histoire familiale, mais il part loin aussi d'un nom mythique qui est celui de Daniel Boone, qui était un aventurier pionnier du Kentucky. Vous savez, c'est le nom qu'elle lui donne en surnom. Daniel Boone. Il part loin aussi du nom mythique d'un autre sénateur du 19e siècle pendant la guerre de sécession qui était Daniel Webster, hein, qui a occupé son pupitre. Vous vous souvenez, on lui dit c'est le bureau de Daniel Webster. Et il part loin, bien sûr, aussi d'Abraham Lincoln, alors qu'on l'avait surnommé Honest Abe. Et, Susan Payne l'avait, pour rigoler, mais appelé Honest Abe, c'est-à-dire le surnom d'Abraham Lincoln. Donc voilà, donc mauvais initiateur que les pères, on pourrait dire, et évidemment, d'où l'importance dans le film, et je trouve le très beau personnage de Saunders, c'est-à-dire que en quoi c'est une bonne initiatrice, je trouve, c'est parce qu'elle l'initie à contre-cœur. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a d'initiation intéressante et subtile que si la personne qui initie est elle-même... comment dire, elle-même est modifiée par l'initiation qu'elle performe. Je le dis de manière pas claire, vous voyez ce que je veux dire. Bon, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dès le début, on voit qu'elle est au bord du burn-out, on dit aujourd'hui. Elle est au bord de démissionner, elle est au bord surtout de penser que finalement, elle fait surtout ça pour l'argent. Pour s'acheter un tailleur, etc. Et vous vous souvenez de la phrase qu'elle dit à Payne, « Quand je suis arrivée, mes yeux étaient deux gros points d'interrogation bleus, maintenant ils ont la couleur du dollar. » Donc en fait, il y a une double transformation à opérer, c'est-à-dire que lui, il faut qu'il prenne la parole, qu'il devienne adulte, etc., y compris, bien sûr, initiation amoureuse, c'est lié, j'y reviendrai peut-être. Mais surtout, elle aussi, elle va se décourager. Et donc les deux fonctionnent ensemble, d'où l'importance de cette scène cruciale, en fait, qui dure presque 10 minutes. C'est énorme hein, dans un film, hein, une séquence de 10 minutes. Disons, entre la séquence du chapeau, où il s'est complètement ridiculisé du point de vue amoureux, et entre la scène de proposition de loi, où il va aussi se ridiculiser, comme je l'ai dit au début, dans sa prise de parole, bah, y a la longue scène d'élaboration de la loi. Et cette scène, elle est importante parce qu'il comprend, là, à ce moment-là, dans le bureau, qui est une sorte de coulisse, de salle de répétition, on pourrait dire, il comprend que la politique, en fait, c'est de la parole, que faire un acte politique, c'est se lever et parler, quoi. Et il dit, et ce qui est intéressant, c'est qu'il repasse encore par les garçons, par les jeunes gens, puisque, évoquant son idée de projet de loi du camp pour jeunes gens, il dit « Je suis libre de penser et de parler, mes ancêtres ne le pouvaient pas, mes enfants le pourront ». Donc en fait, il s'identifie à ses ados pour dire une vérité sur lui-même, qu'il est en train de comprendre. Ça, c'est à la 50e minute du film. Évidemment, cette scène-là d'élaboration de la loi, c'est aussi un point de bascule important parce que, comme je disais, il n'y a pas que lui qui est modifié, mais Clarissa. C'est-à-dire que Clarissa devient amoureuse. Elle se laisse impressionner. On voit d'ailleurs son haut transparent là, avec la lingerie noire en dessous, et ce traitement particulier de l'image qu'on appelle soft focus, c'est-à-dire ces gros plans avec on met un peu de gras sur l'objectif pour que les traits soient adoucis, et donc il y a une forme d'hétérogénéité visuelle de rupture et d'effet comme ça de portrait qui tout simplement suggère une émotion, une montée de l'émotion. Jean Arthur, c'est vraiment un choix très intéressant pour ce personnage, parce que justement, c'est pas une beauté classique, d'une certaine façon, mais bref. Je sais pas si vous avez vu d'autres films avec elle, mais moi, j'aime beaucoup, en tout cas, cette actrice, et notamment d'autres films de Capra. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, lui, lui n'est pas dans la sphère amoureuse à ce moment-là, alors que elle, oui. C'est ça le. C'est-à-dire qu'il y a le champ contre champ ne fonctionne pas au même degré d'émotion. Donc lui, il parle de la nature, il parle de, il a une espèce de tirade écologique ou un peu cosmique, mais on s'aperçoit que justement, ça devient tellement cosmique et poétique que en fait, c'est une sorte de sublimation de son désir amoureux. Pas très conscient de sa part, tandis que elle, on voit bien qu'elle a plus d'expérience de ce point de vue-là et que elle est plus directement en train de tomber amoureuse. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est la vraie initiation du film, c'est la plus intéressante parce que elle aussi se fait initier, elle, et on le voit là dans ce plan-là, c'est-à-dire que elle va perdre son cynisme, ce qui est pas facile. Si vous voyez d'autres films de Capra, c'est au fond, c'est un peu toujours cette histoire-là. C'est-à-dire qu'un personnage est tellement dégoûté, tellement découragé par ce qui se passe, que ce soit socialement, économiquement, les coups du sort, etc., qu'en fait, il arrive au bord du suicide, hein, typiquement dans La vie est belle, et que tout le travail du film, ça va être de lui enlever ce découragement et de lui enlever même son rapport au monde devenu cynique. Donc c'est un très très grand enjeu dans à peu près tous les films de Capra, hein. Revenir du nihilisme, remonter la pente et donc retrouver cet élan vital. Vous voyez comme c'est lié, hein, l'élan vital amoureux et l'élan vital dont je parlais à réinsuffler dans les institutions politiques. Là, c'est complètement noué dans cette scène d'élaboration de la loi. Elle est d'ailleurs, Saunders, entre guillemets, son cynisme s'exerce aussi dans sa vie amoureuse, hein, puisqu'elle est prête à épouser, au fond, son meilleur ami, c'est-à-dire à vivre ou à survivre, disons, amoureusement, sur le mode du « c'est mieux que rien ». Donc voilà. Donc voilà mon troisième ou en tout cas le point qui découle de ça, de cette mauvaise initiation par les hommes et de cette bonne initiation par la femme. Je simplifie évidemment, hein, ça m'arrange. C'est que donc dans son histoire d'accession à la parole, de cette façon de prendre langue pour pouvoir pour faire que sa parole soit comme on dit performative, hein, c'est-à-dire faire une loi, c'est ça au fond. C'est quelque chose que l'on dit puis qui est ensuite écrit et dont le texte a un effet, je veux dire, mesurable dans la vie quotidienne. Eh bien, pour cela, pour trouver le bon, disons, le bon dosage entre son idéalisme avec lequel il arrive en ville et le cynisme qui le guette et qui guette aussi le personnage de Saunders, hein, avec à la fin de la première heure du film, il est au fond du trou, hein, c'est vraiment la dégringolade. Et puis, dernière demi-heure du film, c'est la remontée, avec toute cette élaboration du plan d'obstruction parlementaire, de filibustering. Vous noterez que autant on voit l'élaboration de la loi sur le camp de jeunes, autant c'est dans une ellipse, le plan d'obstruction parlementaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils vont, après la deuxième scène du mémorial de Lincoln, Saunders et lui vont prendre un verre, trois petits points, on a une ellipse, et ensuite, quand il reviendra au Sénat, le plan va être mis en œuvre. Donc, comment il va passer de l'enfance à l'âge adulte ? Comment il va devenir aussi plus lettré, plus informé, et dans la dernière demi-heure, c'est ça. C'est-à-dire que la parole, elle est aussi liée à des citations précises de la Constitution, des lois, des usages, etc. Et c'est important, ça, parce que donc, c'est pas démagogique. C'est pas, il faut prendre quelqu'un de la société civile et lui faire écrire des lois. C'est prendre quelqu'un de la société civile, mais ensuite qu'il apprenne comment on travaille, c'est quand même aussi un métier. Donc ça, on le voit avec Saunders, mais on le voit, mais surtout, c'est important dans la vocation un peu pédagogique du film, en tout cas de Capra, puisque dans L'Enjeu, le film de 48 dont je vous parlais, Catherine Hepburn, qui est la femme de politicien, elle dit à un autre politicien, si vous pouvez rester vous en place comme politicien professionnel, c'est parce que vos électeurs sont des amateurs. C'est pas faux, hein, quand on y réfléchit. C'est-à-dire que c'est cette idée que pouvoir avoir une influence effective dans l'élaboration des lois, il vaut mieux être cultivé, il vaut mieux savoir comment faire. Donc pour ne pas se faire écraser par le système, pour ne pas se faire voler son vote, eh ben, il faut travailler. Et c'est là où le personnage de Saunders devient vraiment important, à tel point qu'à mon avis, il est un substitut du cinéaste, et devient un substitut du cinéaste lui-même. Et j'aime bien quand un cinéaste homme, dans le Hollywood classique, se projette plutôt dans un personnage féminin, c'est relativement rare. C'est le cas dans beaucoup de films de Capra, mais surtout du début des années 30. Alors, d'abord, Saunders, d'une certaine façon, quand elle lui explique comment sa loi va faire le tour des chambres, comment elle va être, tout le temps qu'il va falloir, etc., on pourrait dire qu'elle est scénariste, si on prend la métaphore du cinéma. Mais ensuite, quand ils sont à l'intérieur du Sénat, d'abord il dit, j'ai eu une I had some pretty good coaching last night. Il dit d'elle, donc elle m'a bien coachée hier, et ça fait de Saunders aussi quelqu'un qui est dans la direction d'acteur, véritablement. Ensuite, à l'intérieur du Sénat, vous vous souvenez, elle est la souffleuse. Elle lui souffle exactement quoi dire, elle lui fait signe sur les alinéas à lire. Et puis aussi, elle va jusqu'à présenter les acteurs à Deez. Hein, donc elle-même, elle utilise cette métaphore. Donc vraiment, ça devient une instance du metteur en scène, Saunders, à ce moment-là. Et c'est important que le film lui-même pense cette métaphore, c'est-à-dire de l'arène politique comme une scène, et que le personnage lui-même, au bout d'un moment, le pense comme ça, alors si on lui avait dit ça au début, il aurait trouvé ça cynique, mais en fait, plus il connaît les usages et plus il se dit « Ah d'accord, en fait, c'est comme ça que ça marche », et il se prend, mine de rien, au jeu, à tel point que juste quand il est dégoûté au Memorial Lincoln, il dit « Je vais quitter ce spectacle ignoble », il le dit. Donc au début, c'est sur le mode négatif, hein. c'est un show, c'est un spectacle, aider son pipé, etc. Mais ensuite, on voit qu'il commence à prendre conscience, je dirais, de son public. Pourquoi ? Parce que son public, bah, d'abord, c'est des gens qui votent avec leurs pieds, quoi. C'est-à-dire les sénateurs qui s'en vont, qui quittent le Sénat pour protester contre son filibustering. Mais d'autre part aussi, on pourrait dire parce qu'il a quand même en tête... Qu'il a un spectateur obligatoire et qui est un peu séduit d'emblée, c'est celui qu'il a intronisé, à savoir le président du Sénat, qui est joué par Harry Carey, qui est l'acteur des films muets de John Ford, donc assez iconique pour les gens de cette génération, mais qu'on a complètement oublié. Mais en tout cas, disons, on pourrait dire que pour lui, il a derrière la tête l'idée qu'il a son spectateur. Alors, quant à ce que c'est que le filibustering et tout ça, comme arme politique, je vous renvoie à un épisode récent du Sénat américain en avril dernier, où un sénateur noir, Cory Booker, un démocrate, a fait ça, c'est-à-dire qu'il a fait de l'obstruction parlementaire, en gros contre Trump. Et contre Elon Musk, je crois plus longtemps que jamais. C'était le sénateur du New Jersey, donc il a lui-même battu un record. Bon, voilà, si vous voulez voir dans la vraie vie, ça se pratique assez rarement, mais ça s'est pratiqué récemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, de quelqu'un qui ne pouvait pas parler, hein, il devient quelqu'un comme une sorte de Sherazade du Sénat, qui est condamné à ne pas s'arrêter de parler. Avec cette façon de doubler ça, du journaliste radio qui commente, etc. Y compris avec l'idée que peut-être il suffit de lire le bottin, enfin il suffit de lire l'annuaire téléphonique et il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait un contenu. Donc ce que je veux dire, ce moment-là où il se dit « bon, ok, je vais parler même si au fond il faut que je lise la Constitution de A à Z », on pourrait dire « ah d'accord, donc en fait il n'y a rien dedans », mais si, parce que c'est justement un moment où il prend conscience de son public, où il prend conscience que c'est une scène et que lui, c'est une sorte de, oui, de performeurs. Et d'ailleurs, quand son public revient, c'est-à-dire en haut, les visiteurs, quand les visiteurs sont complètement enthousiastes et qu'ils applaudissent, et en bas, quand il est boudé par les sénateurs qui se mettent à lire le journal et qui se retournent, il devient une sorte d'acteur de stand-up. Il dit, j'ai fait ça pour voir si vous aviez, j'ai sifflé pour voir si vous aviez encore des visages, etc. Donc on a l'impression qu'il y prend goût à ça, que si la politique c'est un spectacle, eh ben voilà, peut-être qu'il peut se servir de ça. Évidemment, ce serait trop simple. Si d'emblée, il devenait un super acteur et que ça se résolvait comme ça. Et donc, je trouve important qu'au moment où il commence le filibustering, et où il croit presque que ça peut le mener à la victoire, on a une sorte de décharge électrique par le fait que tout à coup, on sort de ce décor quasi unique à ce moment-là du film, et qu'on est dans le vrai monde, à l'extérieur, et qu'on voit que Jim Taylor, il attaque. Et il attaque physiquement, et il attaque les enfants. Et ça, c'est important, les livreurs de journaux, les Boy Rangers et tout ça. C'est important que cette violence, elle fasse retour dans le film, justement, parce que sinon, ce serait un peu édifiant. Il deviendrait une sorte de héros un peu facilement de la démocratie américaine. Et donc, je pense que c'est important qu'on ait cette violence physique qui est mort d'homme, presque, de la part de Jim Taylor. La deuxième chose aussi, qui me semble assez... qui complexifie, disons, ce récit, et donc qui me semble assez subtil quand même de la part de Capra, c'est que le méchant, il a cette stratégie de manipulation de l'opinion. C'est-à-dire, il n'y a pas que celui qui parle, qui est au centre du Sénat, qui peut avoir un effet du centre vers l'extérieur. Quand on fait une loi, c'est ça, la loi, ensuite, elle est appliquée à l'extérieur. Il y a aussi l'inverse. Et lui, il fait le mouvement, comment on appelle ça, centripète, hein, de l'extérieur vers le Sénat, en envoyant ce tombereau de lettres négatives, vous vous souvenez ? Donc, en fait, il me semble que dans le début du filibustering, ce qu'il oublie, Smith, c'est que, en fait, il s'y croit, comme on dit vulgairement, et donc, en fait, il oublie qu'il y a un dehors. Et que le Sénat, ça n'est que le laboratoire de cette vraie vie, quoi, de ce vrai monde, et qu'il n'est pas étanche, et que donc voilà, il peut aussi être atteint à l'intérieur du Sénat. Et c'est important pour Capra de montrer l'ambivalence aussi possible des enfants. Je disais, il n'est pas dans une idéalisation de l'enfance. Comme la foule, l'enfance est comme la foule chez Capra. C'est-à-dire que la foule chez Capra, elle peut être bénéfique comme elle peut être manipulable et négative. Et Capra déteste tout ce qui est masse. Il dit « Quand je vois une foule, je le cite, « quand je vois une foule, je vois une collection d'individus libres. Chacun y est unique. Chacun a une histoire qui remplirait un livre. Chacun est une île de dignité humaine. » Cette idée qu'on ne peut pas penser les foules comme des masses, mais que c'est une collection d'individus singuliers. Cette idée, Capra, cinéaste, il l'applique dans son rapport aux acteurs et surtout dans son rapport aux figurants. Il va leur parler un à un pour leur dire, mais toi, en fait, tu traverses la rue à ce moment-là parce que tu vas chez ta grand-mère, etc. Il les nourrit d'une certaine façon d'une individualité imaginée. Or, cette idée que le groupe, c'est des individus, c'est pas une masse, etc., il me semble que Smith, quand il est à bout de force, quand il n'a plus de voix au bout d'un moment dans son obstruction parlementaire, il se souvient que le public, c'est ça aussi. Le public, ce n'est pas une masse, c'est un plus un plus un spectateur. Et ça explique pour moi qu'il repense à ce spectateur idéal, d'une certaine façon, qu'est le président du Sénat, hein, sur lequel se conclut le film, hein, vous vous souvenez d'ailleurs. Ça aussi, petite étrangeté, ce film qui souffle sur un enfant et qui se conclut sur cet homme qui rit. On pourra y revenir. Mais en tout cas, donc, il se souvient de ce complice qu'il a, mais il se souvient aussi d'un autre spectateur qu'il avait presque oublié et qui est Payne. Et alors, d'où le happy end que vous avez peut-être trouvé un peu dur à digérer. On pourra en parler, mais en tout cas, qui, moi, me semble justifier dans la construction même, dans le déroulé même de ce qui arrive dans le film. C'est-à-dire que on se dit, Payne, c'est un vieux briscard de la politique, donc il n'y a pas de raison que tout à coup, il se dise « Non, c'est moi !» et qu'il essaye de se suicider parce qu'il est corrompu. Il le sait qu'il est corrompu, il l'a dit. Voilà. Donc comment faire pour qu'il y ait ce retournement? Mais en fait, ce qu'on voit, me semble-t-il, c'est que Smith a réfléchi à ça quand il s'est souvenu que l'un de ses spectateurs privilégiés, c'était Payne. Et donc, d'une certaine façon, il a utilisé le fait que la politique est un spectacle pour en faire un spectacle vertueux. Donc, on peut même penser que son évanouissement est un peu, pas forcément fin, mais disons que son évanouissement arrive quand même à point nommé pour produire une image, alors là on ne voit pas très bien, mais on est quasiment dans une iconographie chrétienne. Voilà, donc pour lui-même provoquer son apothéose, ou ça, il va jusqu'à l'évanouissement, et donc il impressionne ce spectateur qui est Payne. D'où le fait que pour moi, le retournement de Payne est finalement assez vraisemblable, mais seulement dans l'économie même du film, de sa composition visuelle et de ce récit, de ces différentes étapes, de ce qui arrive au corps quasiment christique hein, du jeune sénateur. Donc il va jusqu'à disparaître. Enfin, en tout cas, l'évanouissement, c'est un peu ça. C'est un acteur qui a une telle présence, qui prend conscience de sa présence scénique, et puis qui va la porter jusqu'à une forme d'incandescence. Et le plus radical, c'est justement de la faire cesser. Et le happy end coïncide avec ça. Alors, voilà, en gros, j'ai, de manière un peu rapide et cursive, mais j'ai dit un peu le gros de ce que j'avais à dire sur le film, sur son déroulement, mais évidemment il y aurait plein d'autres choses à dire, donc je préfère soit avoir le temps de vous passer quelques extraits que je mets à votre disposition, soit de vous expliquer lesquels c'est, soit surtout d'écouter vos questions et vos remarques sur le film, vos réactions au film, vos protestations. Oui.
Alors déjà bravo pour votre analyse qui est précieuse. Il me semble que dans la métaphore de l'enfant qui devient adulte, on voit aussi le groupe de jeunes scouts qui sont placés dans le cœur. Ça pourrait être un cœur antique presque, et que au moment de son discours, ils deviennent adultes. Ce sont des jeunes hommes.
Ah oui, oui.
Ça me surprend parce qu'on voit bien que c'est le même placement des enfants,
ouais.
Et qui deviennent adultes.
Oui, tout à fait. Ouais.
C'est une remarque. Il me semble que c'est au moment où il fait son discours final.
Ouais. C'est très beau cette idée parallèle que eux aussi grandiraient. Quoi.
C'est ça, oui.
Ouais.
Collectivement.
Oui, ouais, tout à fait.
Merci. Oui, moi, c'est juste une remarque par rapport au fait qu'il y a un très beau personnage de femme,
ouais.
Mais par contre, il n'y a pas de petite fille.
Mmh.
Et sa loi n'est absolument pas proposée pour les petites filles.
Ouais. Oui, oui, c'est non mixte. Ça, c'est l'époque. Hein. C'est une époque très genrée. Donc, c'est pas très étonnant, mais on n'est pas très content aujourd'hui. Vous avez raison.
D'accord. Non, mais ça m'étonne pas. C'est oui, en opposition avec ce personnage très beau de femme.
Oui, oui, on pourrait croire qu'en Amérique, ils ont dépassé, ils sont dans une mixité plus grande, mais je pense pas pour tout ce qui est activité sportive avant-guerre. Non, ça reste. En fait, la vraie étape, ça va être l'entrée en guerre, finalement, sur la modification des genres, des rôles sociaux associés au genre. C'est le travail des femmes pendant la guerre, alors qui est plus courte que pour nous, hein, mais ils sont rentrés en guerre à la fin de 41. Mais du coup, beaucoup d'hommes sont mobilisés et les femmes se mettent à travailler. Ça va modifier beaucoup de choses. Ça va notamment modifier le cinéma lui-même, puisque le public devient principalement féminin. Et du coup, il y a plein de films qui sont des portraits de femmes. Alors, qui peuvent être des mélodrames, qui peuvent être. Mais c'est ce qu'on appelait le Women's Picture, Et c'est ça qui va, vous savez, ces grands films voilà, avec Bette Davis ou avec... voilà. Donc ça a modifié ça. Mais sur l'activité des enfants, sur l'activité sportive des enfants, c'est très non mixte. Et si vous voyez le film qui était d'ailleurs au programme du bac, me semble-t-il, jusqu'à l'année dernière, ou qu'il est peut-être encore cette année, qui est High School de Frédéric Wiseman, film de 1968 tourné dans un lycée de Philadelphie, où on voit le fonctionnement, c'est intéressant, un documentaire dans un lycée à cette époque-là. Les cours de gym, c'est un lycée mixte, les cours de gym, ils sont non mixtes, par exemple. Donc, ouais, effectivement, on est loin du compte de ce point de vue-là.
J'ai pas trop de questions, mais je voulais juste, c'est la première fois que je voyais le film, et au début j'étais un peu déroutée par le personnage, je trouvais que c'était, voilà, j'ai l'impression d'atterrir un peu dans un cirque, et je trouve que c'était volontairement de choisir ce personnage qui s'occupe des scouts et qui devient un héros, un futur sénateur. Je trouve que c'est fort par rapport à ce qu'on vit même de nos jours. Je pense que ça peut répondre à ça, même une transposition. Vous avez parlé du Capitole prise par Trump, mais voilà. Moi, je trouve que ce qui est bien fait, c'est effectivement montrer que c'est un clown. Alors, au départ, il est ridicule, et puis voilà, il fait sourire même le spectateur que nous sommes, et au fur et à mesure, il récupère une noblesse. Alors, moi, je suis prof d'espagnol, et tout le long du film, j'ai pas pu m'empêcher d'écouter les références à Don Quichotte, qui est prononcé plusieurs fois. Et qui se bat contre des moulins et qui devient fou aussi. Il est fou, il n'est pas fou, à force de lire des romans d'aventure. Et je trouve que la métaphore filée, elle est belle dans ce texte. Alors je me demandais, mais qui était son écuyer ? Alors au départ, je pensais à Saunders, la Clarissima. Elle est à la fois l'écuyer, puis la dame, sa dulcinée. Je trouve que au début, ça fait sourire avec toute la propagande américaine. Et puis à la fin, comme je dis à mes élèves, on manque un peu de Don Quichotte de nos jours. On n'a pas les bons, peut-être, ouais, je ne sais pas.
Et c'est beau qu'il ait reconnu dans James Stewart. Il a vraiment un don de la direction d'acteur, mais aussi du choix des acteurs. Parce qu'il a reconnu dans James Stewart... Alors, quelque chose de commun avec Gary Cooper, qui est cette innocence, ce côté juvénile, etc. Donc, le contraire d'un acteur qui serait très viril, etc. Mais Gary Cooper a cette virilité un peu brute, comme ça, parce qu'on l'a vu, même jeune, dans des westerns, tout ça. James Stewart, il a une formation de théâtre, mais à l'université. Et donc, il l'a écrit, parce que Capra a écrit ses mémoires, il a donné des entretiens, etc. Il a beaucoup réfléchi sur sa propre pratique. Hein. Vous me direz, il a eu le temps, hein, puisque 30 ans sans travailler. Et il a repéré James Stewart, et il a vu en lui deux choses. D'abord, il a repéré l'intellectuel. Et c'est important parce que le film, certes, il y a toute cette partie Don Quichotte, clown, même qu'on pourrait dire hérité du travail burlesque de la partie du muet. Mais justement, la montée en parole que j'ai décrite, ça demande du texte, ça demande de comprendre ce qu'on dit, c'est quand même très riche en texte et en texte de loi, etc. Donc c'est important qu'il ait perçu l'intellectuel, disons, en James Stewart, et noter que ça, on est dans les années 30. Et donc, en fait, tout ce qui a été fait après avec James Stewart, et qu'on connaît, avec lequel on est, des films avec lesquels on peut être plus familier, c'est-à-dire ses rôles dans les westerns d'Anthony Mann, mais surtout ses rôles chez Hitchcock, hein, bien sûr, en fait, c'est un retravail à partir de ça. C'est-à-dire que ça utilise beaucoup de choses, le côté un peu plus lent que les autres, le côté réfléchi dans les westerns, mais aussi donc, l'autre aspect qu'il a repéré chez Stewart, à savoir sa sensibilité, qui fait que, je cite Capra, on voit son âme, on voit l'âme de l'acteur quand on regarde son visage. Alors ça, c'est particulièrement vrai dans le premier film qu'il a fait avec lui, Vous ne l'emporterez pas avec vous, on voit qu'il est vraiment très jeune, quoi. C'est l'année d'avant, hein, mais il est traité de manière, c'est vraiment le jeune premier, c'est beau, quoi, de voir ce visage-là. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'en fait Hitchcock beaucoup plus tard, c'est-à-dire au milieu et à la fin des années 50, donc 15 ans après, il utilise cette espèce de faille, comme ça, de trop grande sensibilité Il est impressionnable, James Stewart, et il va utiliser ça d'abord dans Fenêtre sur cour en 1955, où littéralement, c'est comme il est accidenté, il est en fauteuil, il fait que regarder ses voisins et prendre des photos, et donc il est littéralement impressionnable comme la pellicule. Et puis ensuite dans Sueur froide, où là Hitchcock exploite cette sensibilité de manière, j'allais dire, tordue. Enfin, il la pousse vers une déstabilisation psychique, quoi. Donc il devient manipulable, il devient très très névrosé à minima. Donc je trouve intéressant que ça trouve quand même son origine dans le travail de Capra et le repérage de Capra qu'il a fait à la fin des années 30. Ouais.
Juste, je reviens sur le fait qu'il n'y avait pas de petite fille et il n'y a pas beaucoup de personnages noirs non plus.
Ouais.
Et même les personnages noirs, en fait, ont des rôles caricaturaux. Mm-hmm. Même le petit garçon qui aide à imprimer le journal, on est presque dans la caricature, les personnes qui portent les valises à la gare, etc.
Ouais.
Et alors, ça, je pense qu'il va falloir un peu en parler avec les élèves.
Ouais, souvent dans les films des années 30, cette question revient quand on montre un film hollywoodien des années 30. Alors oui, indépendamment d'un film sudiste, ou alors c'est là on peut expliquer la guerre de sécession, l'esclavage, la fin de l'esclavage, etc. Mais même dans un film, disons yankee, quoi, dans un film hollywoodien habituel et non historique, donc contemporain de son tournage, souvent on voit les noirs, par exemple, dans ces films qui se passent dans les trains. Il y a toujours quelqu'un qui refait la couchette, qui vient servir, etc. Et c'est souvent un personnage noir. Donc je m'étais renseignée parce que les gens étaient choqués, quoi, qu'il soit dans ces rôles subalternes, etc. En fait, c'était une réalité sociale. Donc en fait, c'était pas, le cinéma ne l'a pas subverti, cette réalité. Il l'a reproduite et parfois il l'a caricaturée. Là, il me semble pas que ce soit très caricaturé, mais après, c'est à la sensibilité de chacun. Par contre, il y a le personnage noir, quand même, de l'homme au mémorial. Ouais. Qui là est présent, exactement filmé à la même grandeur de plan que James Stewart, qui entend le mot liberté. Et évidemment, pourquoi ? Parce qu'on est chez Lincoln. Et que Lincoln, la question de la guerre de sécession, c'est autour de la fin de l'abolition de l'esclavage. Donc, bien sûr que lui, on comprend que lui, il est particulièrement touché par rapport à ça. Après, sinon, sur le fait qu'il n'y ait pas d'autres personnages importants noirs, oui, ça c'est le cas dans la plupart des films des années 30, sauf dans des rôles de nounou, de domestique. S'il y a ce film qui a été refait par Douglas Sirk, ce film avec Claudette Colbert, où Claudette Colbert a qui est devenue Mirage de la vie, mais qui s'appelle Imitation of Life au début des années 30 et qui va devenir Mirage de la vie à la fin des années 50, où Claudette Colbert se lie d'amitié avec une femme noire qui est mère célibataire comme elle, et elles vont habiter ensemble et elles vont créer une recette de pancakes ensemble. Donc il y a à la fois un côté un peu stéréotypé de la femme, la grosse femme noire qui sait bien cuisiner, et à la fois elle est un personnage très important dans le film et elle est l'amie de cette femme. Donc vous voyez que on pourrait dire qu'il y a à la fois du stéréotype et à la fois des choses plus avancées que dans d'autres. Je peux pas.
Dans le discours, on entend aussi parler de l'égalité entre tous, quoi, au niveau de la couleur, de toute couleur, de toute ethnie, etc.
Ouais.
Donc dans la parole, ça figure.
Oui, mais c'est vrai que on pourrait dire ça figure dans la parole, mais on aimerait bien que ça figure
C'est pas oublié au niveau de la parole, ça n'a pas été oublié.
Ouais, tout à fait. Mais Hollywood n'est pas à la page de ça. C'est-à-dire que Hollywood continue à faire du blackface. Hollywood, n'a pas complètement intégré dans les castings le fait de de filmer des Noirs à égalité ou de faire jouer des rôles, je ne sais pas, shakespeariens à des Noirs. Bon, je dis ça, il y a des exceptions. Hein. Orson Welles, en 1938, donc l'année qui précède ce film, a fait une version vaudou de Macbeth à New York, qui a tourné après dans tous les États-Unis, donc joué par des comédiens noirs, etc. Enfin, ce n'est pas non plus... Mais en tout cas, ce n'est pas le mainstream, c'est sûr. Alors justement, à ce propos, peut-être je vous passe le petit extrait d'un film que j'adore de Léo McCarré, qui s'appelle « L'extravagant Mr. Ruggles ». C'est un film de 1935 avec Charles Laughton. Mais vraiment, regardez-le, parce que là, ce n'est pas un moment comique, mais c'est une excellente comédie. Où Charles Laughton, donc très british, avec un accent british à couper au couteau, est un domestique, et le domestique d'un Anglais, et qui le perd au jeu. Donc l'Anglais le perd au jeu, au profit d'Américains très redneck, mais très nouveaux riches, qui sont en visite à Paris, et qui donc le ramènent au fin fond des États-Unis comme étant leur domestique. Bon, il y a toute une histoire après qui s'ensuit, mais comme M. Smith... À un moment, il décide de quitter les lieux, il a été renvoyé, enfin, il est dégoûté de toutes ces mésaventures. Il se trouve, voilà. Et il va quand même au saloon prendre un verre avant de prendre le train. Donc en fait, là, le type à qui il parle, c'est tous des gens avec qui il a fait connaissance, mais le type, le gros moustachu, c'est son maître. Sauf que son maître est complètement manipulé par sa femme, qui est une snob, une mondaine, qui veut paraître... Donc, il les retrouve par hasard au saloon avant de partir et il leur explique pourquoi il part. « Je veux devenir quelqu'un », dit-il. Il y a quelque chose de similaire dans la prise de parole de Smith, c'est-à-dire tout à coup, quelqu'un qui devient un acteur, parce que quelqu'un qui sait un texte comme ça, c'est aussi ça. Et la façon dont les types du saloon sont filmés, c'est évidemment... un miroir de nous, spectateurs. C'est assez beau, d'ailleurs, c'est des portraits presque de spectateurs. Et c'était là-dessus aussi que je mettais l'accent sur le fait que le film se finisse sur le président en tant que spectateur, en tant que, disons, que relais de nous, spectateurs, capable. Alors pourquoi il rigole, il mâche son chewing-gum, etc. Non pas parce que c'est dérisoire, ce qui vient de se produire avec Smith et le filibustering, mais parce que peut-être c'est parce que Smith a atteint cet âge adulte et a compris que c'était aussi un spectacle et qu'il fallait s'en servir que cette distance est possible, la distance de l'humour. Enfin, il n'y a pas d'humour sans distance possible, me semble-t-il. Il y a un film que vous connaissez parce qu'il était, enfin, entre autres parce qu'il était dans le dispositif récemment, mais que vous connaissez peut-être, et qui est un chef-d'œuvre de John Ford, qui est L'homme qui tue à Liberty Valance. Vous voyez ce western crépusculaire, de 61 ou 62, je crois. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un film avec James Stewart, donc James Stewart plus âgé, mais qui est en plus encore plus âgé pour le film, et qui joue le rôle d'un sénateur de la côte Est qui revient au Far West dans un village où il était venu, lui étant originaire de la côte Est, où il était venu étudiant en droit, fraîchement sorti de l'université, pour venir établir la loi et l'ordre dans un village du Far West, puisqu'on était à la fin du 19e siècle, donc juste au moment où la frontière était en train de se fermer et où les États-Unis considéraient que la conquête était finie et que la loi et l'ordre étaient établis partout. Et donc, dans L'homme qui tue Liberty Valance, il arrive une fois sénateur et vieux, il vient pour l'enterrement d'un autre personnage, et il trouve la diligence dans laquelle il est arrivé à l'époque de sa jeunesse. Elle est toute poussiéreuse, mais c'est bien la même diligence. Et là, ça lance un flashback sur son arrivée. Voilà, non, je trouvais intéressant que ça rejoue sur le mode du western beaucoup plus tard, mais finalement la violence, elle est plus physique, mais au fond, c'est aussi ce qui arrive à Monsieur Smith, quoi, d'arriver avec le livre, avec la loi telle qu'elle devrait être, avec une idée de la politique, écrite, et de subir la violence. Finalement, la violence de la corruption, la violence du côté fascisant de Taylor. Enfin, voilà. Il me semble qu'il y a des parallèles assez forts entre les deux films. Voilà. Bon. Donc je mets ces extraits à votre disposition, mais il y en a d'autres aussi, des extraits du film, c'est assez facile, et puis à voir, je veux dire, par le titre, et puis aussi un extrait de La vie est belle, le moment où le personnage se décourage complètement, parce que ça me semble important dans le film, cette idée d'aller au bout d'un certain découragement pour pouvoir ensuite revenir dans la vie et retrouver cet élan. Voilà, je vous remercie pour votre attention.